Vous écoutez France Culture.
Seize heures dix-neuf, deuxième partie de notre émission. Il faut quitter son ombre, il faut impérativement quitter son ombre pour parcourir la forêt de mots et atteindre la canopée. Si la vie est une vie de dictionnaire, alors on ne fera que définir et il n'est pas dit que nous soyons heureux pour autant. Les textes sont courts, les arbres de leur air sentencieux cachent la forêt de doutes. Ça tombe bien, il n'y a que cela de vrai. Tout y passe, l'art bien sûr, relation entre mains, relation entre écrans, relation entre peau, sexe et la vie de nos animaux domestiques. Ce livre se présente à vous comme une cabine d'essayage et vous essayez les textes que l'on vous tend. Certains tombent juste, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en méfier, d'autres trop serrés, d'autres bien trop grands et ça vous donne l'air petit. L'idée de toute façon c'est d'essayer. Si l'on devait résumer mais personne n'oblige à cela, ce serait « et toi ?» Toi, tu écris comment? Sur le ventre ou sur le dos? Sur le ventre, c'est déjà pris, mais comment on fait avec la vie? On discutera au passage de quelques addictions, du bienfait de l'immobilité, du pouvoir de la fiction, de celui de la contemplation, mais par contre, aucune réponse, page blanche, à que faire des enfants perdus. Fabrice Raymond, vous écrivez, vous faites des images, vous publiez Canopée, ce fameux livre aux éditions Mix, et puis vous êtes notre invité cet après-midi. Bonjour et merci d'être là.
Bonjour Marie-Chou.
Ne rien finir, parce que tout est fini depuis le début. Le monde est fini et nous aussi. Impossible de devenir quoi que ce soit. Juste s'inventer comme valeur ajoutée. Essayer de changer les choses. S'employer à les définir. La vie est une activité de dictionnaire. La canopée est l'écosystème de la cime des arbres. C'est l'endroit où la photosynthèse est la plus intense. C'est la végétation la plus éloignée du sol. C'est la hauteur des racines. La surface de la profondeur. L'une des questions qui revient souvent dans cet ouvrage, Fabrice Raymond, c'est une question qui tourne autour de votre vocabulaire. Vous vous demandez d'ailleurs presque littéralement, est-ce que vous êtes votre vocabulaire? Est-ce que ça signifie que vous réussissez à le circonscrire? Est-ce que vous connaissez le territoire de votre vocabulaire?
Non, j'essaye de faire en sorte qu'il soit celui de tout le monde, enfin, que ça soit de parler la langue la plus commune possible, quoi. J'aime bien les lieux communs. Ils ont l'avantage d'être habités par plein de gens. Et donc le vocabulaire, c'est pareil. J'essaye de... Chaque fois qu'il y a un mot un peu compliqué ou je sais pas, ou particulier, j'essaie de l'éviter. Par contre, j'ai des danseuses comme ça. Donc il y a des mots que j'aime beaucoup.
Comme ?
Je sais pas, bah, anabase, canopée, en son par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Ils ne me viennent pas tout de suite, mais je sais pas, je pourrais... procrastination, ou je sais pas, ou des phapax, hein. Beaucoup de grec, parfois, voilà. Donc c'est comme ça des ready-made de vocabulaire, qui sont comme des petits objets, voilà, ou mes péchés mignons. Sinon, pour le reste, mon vocabulaire, je suis toujours fasciné, je crois que c'est Racine, hein, je crois qu'il travaille avec 600 mots, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc, non, j'essaie d'avoir le moins de vocabulaire possible.
Et pour répondre à la question, vous y parvenez ou pas? Est-ce que vous êtes votre vocabulaire?
Je suis ce que le vocabulaire fait de moi. Oui. Oui, je suis mon vocabulaire, je sais pas.
C'est vous qui l'a posé la question.
C'est une citation. Alors, je me souviens plus de ce que j'écris, c'est ça le problème. C'est une citation de à la fois de Jack Spicer. Alors, je sais pas à quel fragment vous faites allusion, mais qui disait, en mourant, c'est mon vocabulaire qui m'a fait ça. Il y a un fragment, je sais pas si c'est celui-là. où je dis que mes phrases tournent en rond et qu'elles font une bouée syntaxique au cours de moi. Et donc je dis, voilà, si le vocabulaire a tué des gens, la grammaire en a sauvé d'autres.
Donc vous, ça vous sauve plutôt?
Oui. Ah bah oui, c'est, sinon je coule direct. Mais un peu nous tous, je pense. Hein. Non, c'est pour ça que j'écris. Ouais.
Est-ce qu'il y a un impératif à définir? Vous introduisez ce livre en disant qu'on a des vies de dictionnaire et que peut-être l'une des pistes, ce serait de définir.
Ah oui.
Mais plus tard, vous dites qu'il ne faut surtout pas comprendre. Donc est-ce que l'idéal, ce serait définir sans comprendre?
Ouais. Sûrement. Définir, c'est définir. Hein. Ne pas finir, quoi. Hein, c'est pour... le livre commence comme ça. J'envoie les oxymores tout de suite devant, comme ça, s'ils me protègent. Et ne pas comprendre. Vous dites impératif.
Est-ce qu'il y a un impératif à définir?
Ah, est-ce qu'on est contraint à ça?
Ou est-ce que c'est intéressant? Ou est-ce que ça nous mène, par exemple, de définir les choses?
Je vous fais le coup, hein, je suis obligé. Hein, voilà, c'est la genèse, quoi. C'est-à-dire que voilà, on nomme ce qui est là. C'est ça. C'est-à-dire, c'est l'interface, le langage, c'est cette interface qu'on a avec le monde et qui nous permet d'être à la fois de s'en servir, à la fois d'être là, à la fois de le partager. Mon premier livre est à la base hanté par la déictique.
Vous pouvez préciser pour les gens comme moi.
Alors, déictique, voilà une danseuse. c'est le fait de montrer. Le fait de montrer les choses et désigner. Voilà. Bon, l'acte de d'Adam dans la Genèse, quoi. Ça, c'est, voilà, ça, c'est un cerf, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et même dans la grammaire, du coup, à la base, souvent je dis, voilà, ça, c'est ça. La vie, c'est. Voilà. C'est un peu ridicule, mais parce que souvent mes phrases sont comme ça. La vie, c'est donc c'est montrer les choses et désigner. Enfin, pour moi, en tout cas, mais pour nous tous, je crois que c'est une façon, c'est notre façon d'être là.
Qu'il s'agisse d'Anabase ou Canopée, ce sont des livres qui fonctionnent et qui sont rythmés par des entrées, par des mots, à partir de quoi vous tirez des bobines qui sont pas toujours des définitions, presque jamais des définitions, mais une variation peut-être, ou un point de départ qui va quelque part, et nous, en tant que lecteur, on suit. Ce sont donc des livres qui sont extrêmement fragmentaires, avec lesquels nous on se débrouille, qu'on relit ou qu'on relit pas, avec lesquels on cherche ou non de l'unité. Est-ce que c'est un moment dans votre rapport au livre ou est-ce que c'est définitif? C'est votre façon d'envisager le livre de cette façon-là, très fragmentaire, et puis à nous de faire le lien si on en a besoin.
Oui, jusqu'à preuve du contraire, c'est sa forme. C'est la forme que j'ai trouvée, enfin qui m'a trouvée plutôt, parce que ces livres naissent de l'impossibilité d'écrire. Mais je me suis aperçu à un moment donné, à force de tourner très longtemps en rond dans une pièce, j'avais des idées. Je me disais, tiens, j'ai une idée, c'était chouette. Je la notais, puis je continuais à tourner en rond, j'en étais une autre. Et puis bon, à un moment donné, je me dis, tiens, on peut faire un livre avec. Donc, oui, c'est la forme définitive. Et je crois que, pour continuer, qui nous sommes, l'homme et l'animal qui se demandent qui il est, je fais des livres qui se demandent ce qu'ils sont, quoi. Ils savent pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous parliez de cabine d'essayage tout à l'heure, il y a un petit texte. Souvent revient des tentatives d'auto-définition du livre, quoi, qui est en train de se faire, qui est en train de dire, mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui est en train de se faire?
C'est angoissant ça comme question? Qu'est-ce que je suis en train de faire? À quoi ça ressemble? Quelle est la définition de ce que je suis en train de créer?
Non, pas tant que ça, non.
C'est moteur?
Non. Non, c'est plutôt ludique, quoi. C'est plutôt... c'est plutôt rigolo. Se dire, voilà, c'est ça, bien, j'essaie de faire ça. Voilà, c'est-à-dire, je suis mon écrivain, je suis mon éditeur, mon commentateur, donc je prends toutes les casquettes, c'est rigolo. Dans le livre, quoi, à un moment donné, je suis poète, après je fais le philosophe, tout ça. Parce que moi, je fais des livres posthumes, en fait. J'ai pensé à ça, non. Je fais des livres posthumes. C'est-à-dire, normalement, ça, c'est des...
Vous faites des livres, genre, résumé de mon œuvre.
C'est ça.
Les meilleures citations de Fabrice Raymond.
Voilà. Les mémoires de Fabrice Raymond, sauf que, en l'occurrence, Fabrice Raymond est inconnu. En général, c'est quand on est, le général de Gaulle ou je sais pas, ou même voilà, les correspondances de Flaubert, j'en sais rien. Et donc, voilà, on retrouve ça dans les cartons, on dit, bah, tiens, on va le publier, tiens, les fragments de machin, quoi. Sauf que moi, je fais directement les fragments.
Vous parlez de tourner en rond dans une pièce et de laisser comme ça venir les idées, et aux joies quand il y en a quelques-unes pour les marquer sur un bout de papier. En même temps, vous faites un très très bel éloge dans certains des textes d'une immobilité et d'un passage à l'action qui ne passerait pas par l'accélération, un passage à l'action qui ne serait quasiment pas l'action. Est-ce que vous pouvez développer sur cette idée qui me semble assez centrale dans Canopée tout du moins?
Alors je sais pas, faudra m'aider, parce que je peux vous...
Je peux essayer de vous aider.
Alors.
Tout dépend où vous allez. Moi j'ai donné le point de départ.
Alors, je vous suis. Alors, ce que ça me dit, en tout cas, dans ce que vous dites, c'est que je suis... Mais c'est postérieur à l'écriture de Canopée. Je viens de finir les contes de Chuang Tzu, hein, donc le taoïsme, tout ça. Et effectivement, j'ai fasciné. Mais bon, il y a une fascination pour un occidental quand on rencontre cette pensée-là. Voilà. Filiou, on est tombé dingue aussi. Il a fini voilà, dans une retraite, dans un monastère bouddhiste.
Qu'est-ce qui vous fascine ?
Bah, la pensée, voilà, de ne rien faire, ce que vous disiez de la lenteur, de voilà, la solution...
Qui n'est pas tout à fait rien faire.
Le moins possible.
Qui est par exemple contempler, si on vous écoute. Et si contempler, c'est rien faire, alors je n'ai rien compris.
Non, on est d'accord, mais enfin, ça dépend d'où on parle. Bon, alors, on est d'accord. Alors effectivement, contempler, c'est pas rien faire. D'ailleurs, théorie, ça veut dire contempler. L'étymologie du mot veut dire ça. Donc je fais de la théorie, en fait. C'est pour ça qu'il y a cette présence-là, je pense aussi. C'est-à-dire, ben oui, je suis assis dans un coin, et puis je regarde, voilà. C'est un peu les dieux grincheux au Mopin Show, vous savez. Donc je suis au balcon du truc, puis je commande. Ah bah, c'est bien. Ah bah, c'est du joli. Voilà, il y a un côté un peu comme ça.
Numéro 9, l'écume, détail. Extérieur jour, au bord de l'eau. Des vagues se brisent sur des blocos aux trois quarts ensevelis dans le sable. Rien, c'est écume vierge vert. 1er avril 2001. Écume, blanc, rocher, blocos, plage, mer, Atlantique, lumière. Cap Ferret, France. 1 minute 21. Deux plans fixes. Blanc, noir. Numéro 10. L'hôtesse de l'air, portrait. Intérieur jour, dans un avion. Avant le décollage, une hôtesse de l'air mime les consignes de sécurité en souriant, puis s'en va en regardant la caméra. 1er décembre 2000, femme, avion, vol, mime, ceinture, masque, oxygène, sourire, main, regard. Berlin, Allemagne. 1 minute 5. Zoom avant panoramique, bleu, gris.
Fabrice Raymond, on vient d'entendre le son de deux films qui sont présents sur Nescafé. Nescafé comme un verbe, comme je Nescafe, tu Nescafe, il Nescafe, nous Nescafons. Enfin, j'imagine que ça se conjugue comme ça. Qui est un projet qui date de 2000, en tout cas qui a été débuté en 2000, édité par les laboratoires d'Aubervilliers. Sorte de grande base de données, d'images, de prises de notes photographiques, filmiques. De prise de notes de texte aussi qui apparaissent sur l'écran. Finalement, quand on visionne Nescafé, qu'on feuillette Anabas, qu'on lit profondément Canopée, je me demande si vous ne construisez pas de façon différente à chaque fois des bases de données. Ce qui conviendrait peut-être, ce qui nous rapprocherait de cette idée de posthume, en fait. Presque comme si vous fabriquiez tout de suite de l'archive. Il faut dire quelque chose, parce que moi,
sans
je
voix,
vous vois.
Je suis sans voix, j'opine du bonnet. Oui, absolument. Absolument. Ouais. Non, l'idée de la database, c'est un truc... Et du coup, y compris la... J'enchaîne, hein, parce que...
Ben, enchaînez. Hein.
Non, mais y compris cette idée de la définition, de nommer, de... Voilà, la forme, c'est ça, c'est le dictionnaire, la base de données. Et y compris un truc que j'aime bien, qui est la... alors, une autre danseuse herméneutique, ça va, c'est pas compliqué. Non, c'est pas herméneutique que je voulais dire. C'était un autre, je l'ai perdu. Pour lancer une recherche, il faut une case vide. Voilà. C'est aussi dans la contemplation qu'on trouve l'espace pour lancer la recherche dans la base de données. Quoi.
Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est la case vide ou c'est lancer la recherche ?
Je sais pas. J'ai envie de dire la case vide, évidemment. Hein.
Ouais. En même temps, vous vous appliquez totalement à les remplir, parce que finalement, tous ces aphorismes, toutes ces références, toutes ces entrées qui composent vos livres ou qui composent Nescafé, qui sont une autre forme d'entrée, c'est une façon de nourrir potentiellement cette case vide. C'est comme si vous prépariez d'avance la réponse.
Pour les autres.
Pour les autres.
Pour les autres. Pour moi, ça fait de la place. C'est-à-dire comme ça, tout ce que je sais, je fais le malin, comme ça, dans les livres, tout ça. Et puis, moi, je peux l'oublier tout de suite, toi. Donc moi, ça fait de la place.
Il y a aussi un rapport très très fort dans Canopée, en tout cas à l'addiction. À plusieurs moments, ça revient, addiction sous toutes ses formes, tout pourrait être drogue, de la plus banale et plus violente piqûre à un amour, par exemple. Est-ce que c'est une tentative de libération ? Ça revient très très souvent, cette idée-là, qu'il faudrait, on pourrait, via l'écriture, se libérer.
Ouais, je sais pas si on se libère. Oui, parce que c'est, ça va avec votre case vide, enfin avec la case vide, avec la contemplation, avec tout ça. C'est-à-dire que la drogue, c'est quand on se retrouve devant l'écran sans souris, quoi. Et le langage, tout d'un coup, c'est cette interface-là, c'est cet outil-là. Tout d'un coup, on a une souris, quoi. Donc on subit pas les choses. Donc je pense dans ce sens-là, oui, que le langage peut... Ouais, parce que ça nous, le langage nous rend omnivore, quoi. C'est parce qu'on parle qu'on est omnivore. Il y a eu Babel et tout ça. Sinon, on serait entièrement comme ça livré à ces pulsions. Enfin, c'est tout ce qui est de l'ordre dans l'ouvert, quoi, de l'animal.
Est-ce que ça permet aussi de se libérer des origines qui, selon vous, polluent notre présent, polluent notre identité présente ?
Oui, bah oui, parce qu'on peut s'originer dans le langage, ouais, du coup.
Dans l'invention ?
Dans l'invention ? Ouais, enfin, en tout cas, ça fait une espèce de tabula rasa, un peu, quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de devenir avec tout son sac à dos, son passif, toute la famille, quoi. C'est un endroit où si on peut effectivement comme jouer, c'est un endroit où voilà, c'est pour les enfants, quoi. Donc ils sont dans leur coin, quoi. Il n'y a pas besoin de ramener toute la famille. Donc dans ce sens-là, oui, je pense que c'est un endroit où s'inventer. Et ouais.
Vous dites que toutes les identités auxquelles le monde contemporain nous oblige nous rendent esclaves, nous condamnent, nous font nous sentir à l'étroit. Pourquoi ça ?
Vous voulez qu'on parle de politique, c'est ça, quoi ?
Bah, pourquoi pas ?
D'accord. J'avais écrit dans Nescafé, puisqu'on en parlait, qu'il y a deux stratégies, c'est 1 plus 1 égale 1 ou 1 plus 1 égale 2. Et... L'assimilation, l'intégration, le modèle anglo-saxon, c'est 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire que vous êtes tous différents. Je reconnais tous votre identité. Vous êtes juif, homosexuel, femme. T'as droit à ta rayon de bibliothèque, t'as droit à... Je te respecte. Mais au final, je veux voir qu'une tête, quand même. Et puis, il y a le modèle républicain, alors, qui est un peu... Bon, c'est compliqué, hein, mais qui est... Voilà. Disons, qui est mise à mal, qui est probablement en train de disparaître, qui était autre chose, qui était, on est tous pareils, quoi. Alors, c'est cette tabula rasa, c'est cette histoire, on parlait du langage, c'est-à-dire, t'es français, c'est tout, quoi. À partir de là, tu fais ce que tu veux. Donc 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire qu'après, l'idée, c'est d'être... On est tous pareils, mais c'est pour être tous différents. Voilà, moi, j'aimais bien cette histoire. Donc, j'aimais bien ce modèle-là, quoi. Mais bon, voilà, ça change. Et donc, je pense qu'on est, on est envahi par nos origines, ouais. Alors, aux États-Unis, c'est une autre... Ça se passe d'une autre façon, parce que d'abord, c'est parce que c'est les patrons, déjà. Donc, et puis, parce que c'est une, ils ont acheté la paix sociale comme ça. Et puis, c'est un pays jeune. Voilà, nous, c'est différent et ça joue autrement, quoi. Voilà. Donc, j'ai une certaine nostalgie de ça, en effet. Ouais.
Vous parlez aussi d'une idée de ce... Dans cette libération-là, ça peut être aussi se libérer d'une forme d'éternité, que l'éternité nous englue et qu'au final, on pourrait avoir l'envie de se détacher, de fuir tout désir, enfin tout ce qui tend à l'éternel, et que l'une des solutions, ça pourrait être par exemple de se suicider par enthousiasme comme enlevé par les dieux. Ça vous semble être une bonne solution, envisageable, sans ironie?
Ah non, c'est pas ah non, c'est pas ironique du tout. Ah non, non, pas du tout. Non, alors, bah oui. Non, non, moi, je trouve qu'on devrait se suicider par enthousiasme. On en est tellement content. Mais donc, quand je dis ça, je parle aussi des amoureux. Il y a ça dans une histoire d'amour très, très forte, quoi. Au sommet de l'intensité amoureuse, on a envie d'en finir pour éterniser l'instant. Donc, c'est pas, vous voyez, c'est pas, je trouve pas ça absurde, hein. Non, non, moi je trouve que il va falloir qu'on se familiarise avec l'idée de mettre fin à sa vie.
Pourquoi ça?
Parce que c'est devenu quelque chose de très central dans le respect du vivant absolu, quoi, dans nos sociétés. Et c'est bien, mais je crois que la vie, l'expérience de vie augmentant, on va commencer à avoir on va s'ennuyer, quoi. On va avoir des problèmes. Et oui, je crois que c'est un paramètre qu'on peut moduler, quoi.
Vous parliez tout à l'heure de la façon de vouloir rester dans un absolu. Ça revient quand même aussi à parler du pic d'extase, de la drogue, quelle qu'elle soit. C'est finalement assez enfantin comme rapport au plaisir, comme rapport à la jouissance, y compris intellectuelle, ne pas accepter que les choses redescendent finalement.
Est-ce que vous pensez que j'accepte pas que les choses redescendent?
Non, je sais pas, je vous pose la question.
Non? Non, non, je suis plutôt yaoi, au contraire, moi. Je suis pour l'encéphalogramme plat, quoi. Pas de. Alors, tout est toujours comme la canopée, c'est-à-dire, on est toujours. Voilà,
soit on est toujours. On est toujours au summum.
Voilà, soit on est toujours au-dessus de. Voilà, mais c'est un sol, c'est un deuxième sol, la canopée. Hein. Donc, non, non, moi, je suis pour.
Tout à l'heure que c'est un livre qui, Canopée, toujours s'interroge sur ce qu'il est au moment où il s'écrit. Il se trouve qu'il a été écrit il y a déjà un moment, puisqu'il y a un temps entre l'écriture, la réécriture et puis la parution pour nous, public. Il y a quasiment à un moment donné une sorte de QCM qui s'adresse à nous en nous demandant quel est notre rapport à l'écriture. Ton rapport à l'écriture peut être ceci, peut être ceci, peut être cela. Et vous évoquez la possibilité... qu'offre la fiction de laisser place au doute et possibilité que n'offre pas la morale qui clôt la question. Et là, moi, je m'interroge parce que votre livre a plutôt un phrasé qui a tendance à clore la question, plutôt tendance à proposer des sentences et à ne pas laisser ouvert, ce qui, pour moi, cache mal le doute, mais tout de même, pourquoi opter pour cette forme si fermée ?
On fait avec ce qu'on est. Donc, mais ça ne m'empêche pas de, donc effectivement, de m'envoyer des vannes aussi. Hein. Donc je me demande, le livre se demande ce qu'il est et il se critique aussi. Mais non, mais j'espère que, voilà, que le doute, vous l'avez cité plusieurs fois, reste présent. Alors à un moment donné, c'est des formes voilà, tellement denses. Quoi. C'est le timsoum de la théologie juive. Quoi. C'est-à-dire que c'est des formes tellement denses, effectivement, tellement fermées, qu'elles sont au bord de l'implosion, quoi, en fait.
D'ailleurs, il faut désirer que ça, non ? Il faut désirer qu'elles implosent et qu'elles, du coup, elles déplient du sens.
Oui. Absolument. Et puis, enfin, c'est comme les grains de Nescafé, quoi. C'est-à-dire qu'elles exposent et qu'elles libèrent leurs arômes. Et c'est le lecteur qui fait ça. C'est le lecteur qui fait imploser le truc. Quand il essaye l'idée, quand il lit la... Quand elle se... Moi, en fait, mon fantasme, c'est je chirurgien au laser, quoi. Je veux faire des connexions synaptiques directement dans le cerveau. Enfin, moi, j'écris dans le cerveau des gens. Enfin, c'est l'envie que j'ai d'essayer de faire ça. Donc voilà, une connexion synaptique, il y en a plein. Hein. Donc moi, j'en fais une de temps en temps. Et puis, donc le doute, il est, c'est plus que du doute. C'est-à-dire que, mais je remarque ça dans la cuisine, hein, l'écriture du truc, c'est que chaque fois que je fais des phrases ou j'aménage un peu, je dis oui, on pourrait dire, ou enfin voilà, j'assouplis un peu le côté péremptoire.
C'est moins intéressant.
Mais oui, c'est... Non, bah, dis les trucs, quoi. Tu les dis, puis après tu dis le contraire, ça c'est pas un problème, et puis on n'est pas d'accord, et puis. Et c'est ça le jeu. Hein. On va pas commencer à. On dit ah oui, mais alors bon. Non, ce qui est drôle, c'est le. Et c'est justement voilà de j'essaie de faire des extas quoi, j'essaie de faire des produits
chimiques. Des extas, des extasies.
Oui, je suis dealer d'idées moi, je fais des trucs voilà pour mais voilà les idées voilà effectivement si elles vont ou elles vont pas.
Si la fiction offre cet endroit de tremblement, de doute, d'indécision, pourquoi ne pas s'y essayer?
C'est une bonne question. J'y pense tout le temps. On y pense pour moi aussi. Je sais pas. J'en ai jamais lu, hein, quand même. Enfin, très peu. Très, très peu.
Pas de roman.
Très peu. Du théâtre, beaucoup. Et ça, plutôt... moi, c'est les premières choses que j'ai lues, c'est du théâtre, en fait. Sartre, Camus, Ionesco, Beckett, voilà. Et en fait, ça, je pense que ça m'influence. C'est assez. Je pense que c'est présent d'une façon ou d'une autre, ce rapport à la parole dans mes textes. Moi, je suis très touché d'entendre mes textes dans la bouche de quelqu'un d'autre. Quoi. C'est vraiment ça que je fais. C'est comme la cuisine. C'est mettre des trucs dans la bouche des gens. Donc, chaque mot, je choisis chaque mot. Tiens, je vais mettre du coriandre, ou du fenouil sauvage. Quoi. Donc, chaque mot est choisi. Et je ne sais plus ce que je disais au début.
Bah, la fiction, écrire des histoires, inventer des histoires.
Oui, voilà, oui, j'en ai peu lu. Bah, il y a la recherche du temps perdu qui, voilà, ça il y a un avant et un après. Mais sinon j'en ai peu lu, donc j'ai un drôle de rapport aux histoires tout simplement. Et je crois que ça me fait peur. Je crois. Hein. Je sais pas si j'ai envie de laisser la place à ça. Et que le langage est vraiment un outil pour moi pour être là, quoi. Pour être là et puis faire des outils pour les gens, quoi. Qui parfois, ça, parfois je fais des marteaux en céramique ou des tournevis en bois. Bah, ça marche pas très bien, quoi. Mais je fais des outils. La fiction, bah, je sais pas. Alors, je l'introduis, il y a un île qui est arrivé, voilà, dans Canopée, qui n'était pas dans la base. Il y a un « il » qui est une espèce de pudeur du jeu, hein, mais qui m'ouvre plein de trucs.
Oui, parce que quand « il » n'aime pas les jeans, ou en tout cas quand les jeans ne lui vont pas, on a quand même du mal à ne pas vous imaginer derrière le « il » d'un coup.
C'est vrai.
Enfin, je veux dire que c'est raté, en tout cas, pour la
ça, bah, merci.
Mais pour revenir à la recherche du temps perdu sur laquelle vous êtes passé très très vite... vous dites qu'il y a un avant et un après, et vous dites par ailleurs ne pas avoir lu de fiction. Pour le coup, là, on est dans un monument de la fiction, monument de la littérature du XXe siècle. Ça ressemble à quoi, cet avant et cet après Proust?
Bah, c'est bon, existentiellement, c'est un gamin au fond de son lit qui m'a convaincu que la vie c'était sympa, quoi. Bah, finalement, bon, on pouvait faire des trucs, puis on pouvait partager avec les gens. J'étais pas convaincu, quoi.
Avant Proust.
Non.
Donc merci Proust.
Oui, enfin merci. C'est long quand même. Non, je suis content d'être là. Mais donc bon, voilà, il y a ce truc là. Et puis après, c'est une expérience plastique en fait, la recherche du temps perdu, parce que c'est la vie à l'échelle 1. Donc moi, je lis très lentement, très tout ça. Donc ça m'a pris, je sais pas des années, mais je sais pas, un an, enfin je sais pas. C'était à l'époque, enfin j'étais jeune, donc ça me paraissait une éternité. Donc ça prend une place. C'est un an, voilà, dans la vie, c'est pas un livre, quoi. C'est une expérience plastique. Voilà, il y a un truc. Pour ça, je dis à un moment donné, j'aimerais faire cette pièce qui est d'écrire la recherche du temps perdu sur une ligne pour voir combien on fait de fois le tour de la Terre. Donc c'est ça qui continue à m'intéresser dans l'écriture par rapport à la fiction. Pour cette question de la fiction, c'est un rapport au réel, quoi. C'est que j'essaie de mettre le plus de réel. Moi, je fais des carnets de fouilles, voilà. Encore une métaphore de ce que c'est, canopée et tout ça. C'est de l'archéologie du présent. C'est-à-dire que je regarde ce qui est là, puis je sors mon carnet, puis je note précisément, je sais ce que c'est, voilà. Donc il y a tout, c'est pour ça qu'il y a tout. Et je suis très attaché à ça, pour l'instant en tout cas, je me rends compte. Et la recherche du temps perdu, d'une autre façon, c'est la même expérience, voilà, d'écrire à l'échelle, la vie à l'échelle 1. Et aussi en tant que lecteur, ça prend une place dans la vie. Je serais incapable, je m'en souviens plus du tout, hein. Pourtant c'est définitif pour moi. Mais pour plein de gens, c'est ça qui est touchant aussi, hein. C'est que je suis stupéfait d'entendre tout le temps, pour beaucoup de gens, hein, c'est le livre fondateur, bon voilà. Mais sinon pour l'écriture et la fiction, donc c'est pas une fiction. Alors pour le coup, si, en exagérant pour moi, c'est quelque chose à voir avec l'œuvre plastique, quoi.
Vous répétez plusieurs fois cette idée d'expérience plastique ou d'œuvre plastique. Il se trouve que vous êtes diplômé des Beaux-Arts et que dans Canopée, il y a aussi une expérience plastique dans ce livre qui a du blanc, qui alterne des phrases extrêmement courtes et des moments un peu plus denses dans la page, comme s'il y avait une rythmique assez similaire aussi à ce que vous travaillez sur l'écran dans les génériques. Et vous parlez de cet espace blanc sur la page. Qu'est-ce qu'il a comme valeur, cet espace blanc sur la page ?
Alors Marie, je vais être obligé de vous contredire.
Ok.
D'accord. Bon. Non, peut-être c'est peut-être c'est. Je suis ignorant de ça, mais justement, il y a pas longtemps, j'ai repensé à ça. Je suis aussi comme tout le monde. Hein, moi, je suis des standards, grand fan de Mallarmé. Enfin, c'est aussi important cette lecture-là. Mais ça m'a beaucoup touché. Voilà, c'est important dans la manducation, dans le mantra, quoi, dans ce que j'essaie aussi, dans la forme parfois pharastique de ce que j'essaie d'écrire, c'est-à-dire de voilà, encore une fois, de mettre les mots dans la bouche, voilà, des gens, des lecteurs. Mais ce qui est important ce qui m'a beaucoup important pour moi chez Mallarmé, c'est l'hésitation entre le son et le sens. Hein, c'est Valéry qui dit ça, je crois, de lui. C'est que voilà, à la fois on sent qu'il y a du sens, quoi. Il y a plein de sens. Et à la fois, il y a une force du son qui est là, qui veut sa part de gâteau, quoi. Donc ça, vraiment, c'est ça qui m'intéresse. Par contre, le coup de dé, c'est génialissime, hein, sûrement. Hein. Mais moi, c'est pas...
C'est-à-dire le coup de dé
jamais un coup de dé ne boira quand même lancé dans des conditions incertaines. Donc toute cette spatialisation du texte qui lance voilà, toute l'histoire de la spatialisation. Et qui, traditionnellement, donne un point de rencontre très fort entre l'histoire de les arts plastiques et la littérature et la poésie.
Vous, ça vous intéresse pas ?
Ça m'intéresse pas. Mais et pourtant, je passe plus de temps à voir des expositions et à parler d'art que à parler de littérature. Donc
c'est impossible que ça vous intéresse à votre insu.
Ah si, c'est pour ça que je vous dis, vous avez tort, c'est juste pour rappeler qui est l'auteur. Mais en fait, j'en sais rien.
Vous avez quand même écrit que le blanc repose de la communication générale, donc ça n'a pas aucune valeur non plus, ce blanc sur la page. Bon, cette discussion est quasiment close. On passe à Armand Robin, dont nous écoutons la poésie toute cette semaine. Aujourd'hui, Christian Gonon et Émilie Prévostot, la Comédie Française, nous lisent « Noël est dans d'Odette ».
Elle fut nommée Odette au gré de ses parents. Son « dé », pas pour les odes dansant sur mes dents. Elle était ce qu'elle était, tout naturellement. Pas du tout pour aider mes poèmes sur les restaurants. Serveuse après Maïté, dans le restaurant, où je me rends de temps en temps pour chanter les restaurants. Un soir, cheveux très noirs, tombant très savamment, avec l'air de tomber parfaitement négligemment, elle aima me tirer très vigoureusement l'une puis l'autre oreille devant tous les clients.
Un poème sur moi, pour mon Noël Armand. Je le réciterai devant tous mes parents.
Se disant, cette Odette ouvrait toutes ses dents. Cette Odette qui tant aimait ses parents. Son sourire n'était plus sur ses lèvres, mais sur ses dents. Elle avait pris aux dents le commandement d'orner, d'honorer le Noël de ses parents. J'aime les jeunes filles qui honorent leurs parents. C'est pourquoi, pour le Noël de ses parents, je me suis mise à chanter spontanément cette Odette, tellement Odette, natalement.
1, 2, 3, 4.
C'est à vous que revient la désannonce de la chanson qu'on vient d'entendre, Fabrice Raymond.
C'est Devendra Banhart, ça s'appelle A Ribbon.
Et pourquoi vous avez choisi cette chanson pour qu'elle soit diffusée à cette heure?
Ça bouleverse la cheerleader, la pom-pom girl qui est en moi. C'est trop beau.
La pom-pom girl qui est en vous. Ça la bouleverse. Eh bien, sur cette image, je vais en poser une autre. Non pas pour l'oublier, mais pour lui succéder. La photographie des saumons qui clôt votre livre, des saumons qui sont en l'air, juste au-dessus de l'eau, ça clôt le livre ou ça le commence?
Alors ça clôt mon livre, ça commence celui d'un ami, mais ça clôt celui-là, ça commence le suivant. C'est toujours des images autour de l'anabase, qui est en fait le livre, je pense que j'en écrirai pas d'autres. Donc Canopée, l'anabase 2, Et le prochain sera l'Anabase 3, qui est voilà, le long retour après la défaite. Et
pourquoi,
à la maison.
Pourquoi le saumon?
Parce que le saumon rentre, remonte, il va jusqu'à l'océan, après descend la rivière, et il remonte frayé là où il est né.
Canopée et Anabase sont publiés aux éditions Mix. Fabrice Raymond, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci à vous.
Pour emporter cette émission avec soi dans son cœur, on se rend sur le site internet de franceculture.fr. On clique en haut à droite sur l'onglet podcast. On dit oui, je le veux, podcaster, pas la peine de crier tous les jours. Et normalement, ça marche. Normalement, on est heureux. Rien n'empêche au passage de laisser un message puisque nous lisons et nous répondons aux manettes cet après-midi et au tout début, Clément Daté. Merci à Laurence Courtois et Marguerite Gâteau des Fictions. Anne-Laure Chanel a réalisé cette émission tandis qu'elle fut, comme à l'habitude, préparée par Cyril Baer et Claire Pansignon. Le Petit Prince a dit revenez jeudi.